Vous écoutez, on lit pour vous.
Quel pape a eu une fille? Un texte de Kofi Serge Engesson paru dans Paris Match. Plusieurs papes dans l'histoire de l'Église catholique ont enfreint la règle du célibat, allant jusqu'à avoir des enfants. Parmi eux, certains ont eu des enfants, parfois avant, parfois après leur ordination, dans un contexte où la discipline du célibat n'était pas toujours fermement établie. Mais de qui parle-t-on exactement? Voici ce que révèle l'histoire, document à l'appui. Loin des figures austères et intouchables que l'on pourrait imaginer, de nombreux papes ont eu des parcours amoureux parfois complexes, souvent cachés et parfois publiquement assumés. Alors que l'Église catholique impose depuis le XIIe siècle le célibat à ses prêtres, de nombreux pontifes ont eu des enfants. À travers l'exemple de plusieurs papes ayant eu des filles, on découvre une histoire du Saint-Siège plus humaine, mais aussi plus trouble. Qui sont ces hommes d'Église qui furent aussi pères de famille? Et que nous disent-ils sur la discipline du célibat sacerdotal? Quel pape a eu une fille avant d'entrer dans les ordres? Clément IV, pape de 1265 à 1268, est l'un des exemples les plus documentés. Avant de devenir prêtre, il était marié et père de famille. Il eut plusieurs enfants, dont deux filles, selon les archives. L'une d'elles se prénommait Mabili. Il entra dans les ordres après la mort de son épouse, respectant ainsi les règles ecclésiastiques en vigueur à l'époque, qui n'interdisaient pas à un homme marié devenu veuf d'accéder à la prêtrise. Autre exemple, Adrien II, pape de 867 à 872, était également marié et père d'une fille avant son ordination. Sa femme, Stéphanie, et sa fille vivaient même avec lui au palais du Latran, ce qui, bien que rare, n'était pas interdit avant que l'Église ne durcisse sa discipline. Tragiquement, toutes deux furent assassinées dans des circonstances politiques complexes liées à des rivalités internes au Vatican. Quels papes ont eu des filles après leur ordination? Parmi les cas les plus notoires figurent Jules II, pape de 1503 à 1513. Avant son élection au pontificat, mais après sa consécration comme évêque, il eut trois filles illégitimes, dont Felice della Rovere, née en 1483. Cette dernière devint une figure marquante de la noblesse italienne, renforçant les alliances politiques de son père. Jules II illustre ainsi comment certains papes parvenaient à concilier carrière ecclésiastique et intérêts familiaux. Autre figure majeure, Paul III, 1534-1549, qui eut quatre enfants illégitimes avec sa maîtresse Sylvia Ruffini, parmi lesquels une fille. Cette relation débuta après sa nomination comme cardinal diacre, marquant ainsi une infraction directe aux règles du célibat sacerdotal. Ses enfants jouèrent un rôle important dans les affaires politiques italiennes, notamment son fils, Pierre-Louis Farnese, duc de Parme et Plaisance. En revanche, Grégoire XIII, 1572-1585, bien qu'il ait eu un enfant après son ordination sacerdotale, n'eut qu'un fils, Giacomo Boncompagni, né de sa relation avec Maddalena Fulcini. Aucune fille n'est mentionnée dans son cas. Dans un tout autre registre, plus récent et moins charnel, Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005, n'a pas eu d'enfant, mais a entretenu une relation intime, bien que platonique, avec Anna Teresa Timienieka, philosophe américaine d'origine polonaise. Cette relation, révélée par près de 400 lettres échangées entre les deux, témoigne d'une profonde complicité intellectuelle et émotionnelle vécue dans les limites du célibat sacerdotal. Cette amitié a été scrutée par le Vatican, dissimulée aux yeux du grand public, mais elle révèle un besoin de proximité affective et d'échange spirituel chez Karol Wojtyla. Elle interroge aussi les limites du célibat, non pas dans sa dimension sexuelle, mais dans sa réalité humaine. Jean-Paul II n'a pas eu d'enfant biologique, mais il reste un exemple marquant de pape dont la vie intime a été nourrie de relations féminines significatives. Le célibat, une règle de discipline, pas un dogme. L'examen de ces cas montre que le célibat sacerdotal n'a jamais été une règle uniforme dans l'histoire de l'Église. Pendant des siècles, les prêtres, évêques et même papes étaient mariés ou devenaient prêtres après veuvage. Le deuxième concile du Latran, en 1139, marque un tournant. Seuls les hommes ayant fait vœu de célibat peuvent désormais être ordonnés dans l'Église latine. Mais cette décision repose sur des enjeux politiques et économiques, notamment l'interdiction de transmettre les biens ecclésiastiques à des héritiers. Aujourd'hui encore, les églises catholiques orientales autorisent le mariage des prêtres tant que celui-ci précède l'ordination. La règle du célibat ne relève donc pas du dogme, mais d'une discipline propre à l'Église latine, modulable selon les époques, les cultures, voire les besoins géopolitiques. En somme, Clément IV, Adrien II, Jules II et Paul III sont des exemples de papes ayant eu des filles, révélant les tensions historiques entre discipline ecclésiastique et réalité humaine. C'était « Quel pape a eu une fille ?» un texte de Kofi Serge Engessen paru dans Paris Match.
Éliminer l'épidémie de VIH d'ici 2030, un objectif de plus en plus difficile, un texte de Philippe de Montigny, publié sur le site de Radio-Canada. Après 4 décennies de service auprès des personnes séropositives, une organisation torontoise fermera ses portes l'an prochain, faute de demandes et de financement. Malgré les progrès, en matière de dépistage, de traitement et de prévention, la lutte contre le VIH au Canada et ailleurs dans le monde est loin d'être terminée. Fondée en 1983, dans un contexte bien différent, l'AIDS Committee of Toronto, ACT, a décidé de cesser ses activités en mars prochain. Au cours des 10 dernières années, nous avons constaté une baisse notable du nombre d'usagers, affirme le directeur général Ryan Lisk. Leurs besoins ayant évolué, ils n'ont plus autant besoin de nous. L'offre étendue de médicaments de prévention, ou PREP, avec désormais des options injectables, permet de limiter les nouvelles infections au sein des groupes les plus à risque, en améliorant notamment l'adhésion. C'est plus facile de recevoir des injections 6 fois par année que de prendre une pilule chaque jour, affirme l'infectiologue Daryl Tan de l'hôpital St. Michael's de Toronto. Qu'est-ce que le VIH? Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, s'attaque au système immunitaire. Il s'agit d'une maladie chronique, toujours incurable de nos jours, et qui, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut évoluer en syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, et même entraîner la mort. Par contre, avec un traitement et des suivis médicaux, les personnes séropositives peuvent vivre aussi longtemps et en aussi bonne santé que le reste de la population. La fermeture imminente de l'ACT s'inscrit aussi dans un contexte de problèmes financiers. Cet organisme affiche un déficit budgétaire depuis plus de 5 ans, variant d'environ 250 000 à 800 000 $, précise M. Lisk. Il souligne que les dons ont baissé de façon notable. L'organisation en avait récolté pour 3,6 millions de dollars en 2003, alors qu'elle estime avoir amassé moins de 300 000 dollars cette année. le financement fédéral, alloué dans le domaine du VIH, n'a presque pas bougé en une décennie, ajoute le directeur général, qui espère que le retrait de l'ACT permettra d'augmenter les subventions accordées à d'autres organismes plus spécialisés. Benjamin Sourisseau, directeur général d'Action positive, le seul organisme francophone qui se voue à la lutte contre le VIH à Toronto et dans le sud de l'Ontario, y voit la perte d'un partenaire important. C'est difficile de perdre un joueur de poids, parce que, quand on a des relations aussi fortes, ça permet d'aller parler aux bailleurs de fonds ensemble, d'aller parler au gouvernement ensemble, dit-il. Ça diminue notre voix, en fait. Cible ratée? Il y a 9 ans, le Canada s'est engagé à mettre fin au sida comme menace pour la santé publique d'ici 2030, un but commun avancé par l'ONU. Pour y arriver, les pays se sont donnés pour mission d'atteindre d'ici 2025 les objectifs 95-95-95, c'est-à-dire ceux-ci, que 95% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut, que 95% d'entre elles reçoivent un traitement antirétroviral, que 95% des personnes qui suivent un traitement aient une charge virale indétectable. C'est important, parce que si quelqu'un a une charge virale indétectable, même s'il est séropositif, il ne peut pas transmettre le virus à d'autres personnes, affirme Isaac Bogosh, infectiologue du Réseau universitaire de santé UHN de Toronto. Le Canada serait en voie de rater certaines de ses cibles, car il se situerait autour des 89-85-95, selon les plus récentes données disponibles. Il y a toujours place à amélioration. Mais si on compare le Canada aux autres pays à revenus élevés, nous faisons un travail remarquable, dit-il. Le Canada s'en sort plutôt bien, mais nous ne vivons pas dans une bulle. Le nombre de nouveaux cas de VIH au pays a bondi de 35 % de 2022 à 2023, une période marquée par une forte vague d'immigration, souligne l'infectiologue. Ces données ne reflètent donc pas nécessairement des infections contractées au Canada. Bon nombre de ces infections ont été importées, explique Isaac Bogosh, sans porter de jugement. Il souligne aussi que le financement mondial des programmes de lutte contre le VIH a été décimé cette année, en grande partie en raison du retrait de l'administration Trump. L'ONU-SIDA, dont la moitié du financement dépendait des États-Unis, a sonné l'alarme la semaine dernière. La riposte mondiale au VIH subit actuellement son revers le plus important depuis des décennies, a souligné sa directrice générale, Winnie Byanyima. L'infectiologue Daryl Tan espère que cette situation motivera d'autres pays, dont le Canada, à bonifier leurs contributions. Il tente de rester optimiste, mais il estime que l'atteinte des cibles de l'ONU d'ici 2030 est de moins en moins probable. C'était éliminer l'épidémie de VIH d'ici 2030, un objectif de plus en plus difficile, un texte de Philippe de Montigny, publié sur le site de Radio-Canada.
Inoffensif, mes implants? Faire la lumière sur les prothèses mammaires. Un texte de Florence Morin-Martel, paru dans Le Devoir. Après s'être fait retirer ses prothèses de sein en 2023, en raison de risques accrus de cancer, la médecin de famille, Isabelle Gaston, plaide pour un registre national des implants mammaires qui permettrait d'aviser rapidement les femmes en cas de problème. Dans son nouveau documentaire intitulé « Inoffensif, mes implants », la docteure Gaston raconte d'abord sa propre expérience. En 2008, elle s'est fait poser des implants mammaires macro-texturés de la compagnie Allergan. Mais quelques années plus tard, j'ai appris que mes implants mammaires pouvaient me rendre malade. Non seulement ils pouvaient me rendre malade, mais ils pouvaient me donner le cancer, relate-t-elle à l'écran. Ces prothèses d'Allergan ont effectivement été retirées du marché en 2019 en raison de risques accrus de cancer du système immunitaire. Or, Isabelle Gaston affirme ne jamais avoir été contactée par un médecin à ce sujet et avoir découvert cette information par hasard, quelques années plus tard. J'ai vraiment un sentiment d'injustice de ne pas avoir été mise au courant, de me dire que je ne vaux même pas un téléphone, dit-elle. Pour la docteure Isabelle Gaston, il n'était pas question de rester exposée à un danger potentiel. Longtemps, j'ai voulu mourir, dit-elle, en référence au drame de 2009 quand son ex-conjoint Guy Turcotte a tué leurs deux enfants. Aujourd'hui, elle est toutefois mère d'un petit garçon nommé Xavier et sa vision de la vie a complètement changé. Ce n'est pas vrai qu'une fois que j'ai retrouvé du bonheur avec Xavier, que là je vais perdre ma santé, confie-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Favorable à un registre. En 2023, la médecin de famille a donc décidé de se faire retirer ses implants mammaires. Elle a cependant continué de s'intéresser à la question après l'intervention. Mon but n'est pas d'énerver les gens. Mon but, c'est de faire un consentement éclairé pour que les gens soient libres quand ils prennent leurs décisions, affirme-t-elle. Au Québec, entre 8 000 et 8500 femmes se font poser des implants mammaires chaque année, que ce soit à des fins reconstructives, esthétiques ou pour remplacer des prothèses existantes, souligne-t-on dans le documentaire. À ce jour, il n'existe toutefois aucun registre canadien permettant de suivre les femmes porteuses d'implants et de les informer en cas de problème lié aux prothèses. Pourtant, cette mesure serait bénéfique pour les patientes, tant pour leur santé que pour la recherche et le suivi, indique le docteur Georges-Emmanuel Salib, président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec, dans le documentaire. Interviewé à l'écran, le rhumatologue albertain John Willem Gohan, T-Vert, est du même avis. C'est étrange que, lorsque votre voiture ne fonctionne pas bien, il y a un rappel immédiat grâce à l'existence d'un bon registre, mais que, si vos implants mammaires posent un problème, il n'y a aucune possibilité de rappel qui soit fiable. Dans le documentaire, Santé Canada affirme avoir mis sur pied un comité chargé d'évaluer la possibilité de créer un registre. Reconnaissance officielle? Dans sa quête, la docteure Gaston a rencontré plusieurs femmes qui, sans en avoir la certitude, croient que leurs implants leur causent des problèmes de santé. Elles ont choisi, comme moi, de se faire retirer leurs implants. La médecin de famille relate qu'avant de se faire retirer les implants, elle éprouvait elle-même au quotidien divers symptômes comme des doigts enflés, des frissons et une faiblesse dans les jambes. « Je me suis vraiment améliorée après l'opération », témoigne-t-elle. Sur son site, Santé Canada explique que le terme « maladie des implants mammaires » est utilisé pour décrire divers symptômes ou maladies chez des personnes ayant des prothèses de sein. Les symptômes signalés sont, entre autres, de la fatigue, de la douleur ou une raideur articulaire ou encore des problèmes de mémoire ou de concentration. Des maladies auto-immunes qui surviennent lorsque le corps s'attaque par erreur à des cellules, à des tissus ou à des organes sains ont aussi été rapportées. À l'heure actuelle, Santé Canada ne reconnaît toutefois pas la maladie des implants mammaires comme un diagnostic médical. Il explique qu'après l'analyse des rapports reçus, il n'a pas été possible de déterminer si les implants étaient la cause des symptômes ou des maladies rapportées. Pourtant, selon le docteur John Willem Cohen-Turvert, ce n'est qu'une question de temps. Dans 50 ans, tout le monde reconnaîtra qu'il existe un lien entre les implants mammaires et les maladies liées aux implants mammaires. J'en suis convaincu. C'était Inoffensif mes implants, faire la lumière sur les prothèses mammaires, un texte de Florence Morin-Martel paru dans Le Devoir.
Pour 2026, sortir de la torpeur. Un texte d'Émilie Nicolas, paru dans Le Devoir. Le 29 novembre 2024, Justin Trudeau et son entourage dînaient avec Donald Trump à Mar-a-Lago. À pareille date, en 2024, le commentariat canadien tentait de déterminer si le président désigné des États-Unis blaguait ou non, lorsqu'il avait parlé de faire du Canada le 51e État américain. Avec sa démission fracassante, Chrystia Freeland aura contribué à sonner l'alarme sur la gravité de la menace économique et politique que représentait le retour de Trump à la présidence. En bout de piste, c'est ce qui aura teinté l'année politique en 2025, l'année où la conscience politique canadienne aura commencé à émerger, à tâtons, du déni. Du déni de l'asymétrie de notre relation avec Washington, du déni de l'éternité immuable de l'amitié entre nos deux capitales, du déni de l'impérialisme américain et de son emprise sur nos destins collectifs, du déni des limites de la souveraineté nationale d'un pays du G7 qui fait pourtant la taille d'un continent. Cette sortie du déni est loin d'être terminée. Mais les consciences se seront faites plus sensibles à la fragilité de nos institutions face au capital étranger et aux sautes d'humeur de Washington. Ce déni contraste avec une forme de conscience politique relativement banale dans les pays du Sud global. Une conscience héritée de l'expérience de la colonisation que nos destins collectifs sont en bonne partie téléguidés par des forces politiques et économiques externes, que ce soit des multinationales, des superpuissances étrangères, le FMI ou la Banque mondiale. On s'intéresse à la géopolitique non pas par intérêt de se cultiver ou de s'ouvrir sur ce qui se passe dans le monde, ailleurs, chez les autres, mais par besoin élémentaire de comprendre ce qui nous arrive à nous-mêmes. La distinction est majeure. C'est une manière de voir le monde qui commence à percoler chez une partie des observateurs politiques canadiens. On parle ces derniers jours de l'élection présidentielle au Chili qui a été remportée par le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, héritier politique d'Augusto Pinochet. Pinochet avait lui-même été porté au pouvoir en 1973 au terme d'un coup d'État, notamment téléguidé par la CIA. Son prédécesseur, Salvador Allende, avait nationalisé les mines de cuivre du pays et avait fait adopter une constitution permettant d'exproprier les grandes entreprises étrangères pour collectiviser une plus grande part des ressources chiliennes. Du point de vue des intérêts économiques de Washington, c'était intolérable. S'en sont suivis 17 ans de dictature. Le Chili avait pourtant déclaré son indépendance en 1818. Il est d'une évidence élémentaire, lorsqu'on connaît l'histoire du Chili ou plus largement celle de l'Amérique latine, que l'indépendance d'un pays ne fait ni sa souveraineté politique ni sa souveraineté économique. Dans les faits, les peuples ne sont jamais complètement libres de déterminer leur destin sous le capitalisme, ni dans le giron de l'Empire américain, qui n'est au fond qu'une appellation alternative du capitalisme mondialisé. Par ailleurs, Washington pilote à l'heure actuelle un blocus naval au Venezuela, question de fragiliser et éventuellement renverser le régime de Nicolas Maduro. Pas par préoccupation pour les droits de la personne, mais pour retrouver son accès d'antan aux riches réserves de pétrole local, jadis si bien exploitées par les multinationales américaines. Ce que l'Empire veut, l'Empire prend. C'est réel, c'est contemporain, ce n'est pas de la science-fiction. En novembre 2025, Paul Saint-Pierre Plamondon affirmait qu'un Québec indépendant devra aligner ses politiques économiques et militaires sur celles des États-Unis, malgré la guerre tarifaire. C'est le genre de déclaration, parmi bien d'autres, qui me fait percevoir nos débats sur le fédéralisme et le souverainisme enveloppés dans une candeur dangereuse. Une candeur à peu près inimaginable en Amérique latine ou dans la Caraïbe. Un peu comme si nous discutions de provinces ou de pays à l'intérieur d'une bulle de verre sur le point d'éclater. Je crains, référendum ou pas, que l'on se fasse collectivement mal avec les tessons lorsque le réel fera inévitablement éclater le verre. Quand je parle du réel, je parle de la manière dont notre classe politique peut tout à fait vendre, d'elle-même ou sous pression, une partie de notre souveraineté économique, nos services publics, notre filet social, nos régulations, notre environnement et la préservation du territoire au plus offrant, que l'on soit province ou pays. Tout indique que 2026 continuera à travailler nos consciences politiques. D'abord, parce qu'il faut se préparer à la possibilité, loin d'être farfelu, que les élections de mi-mandat prévues à l'automne 2026 aux États-Unis ne soient plus tout à fait des élections libres. Si c'est dans un tel décor que nos propres élections provinciales sont plantées, alors tout ce que les analystes disent sur les enjeux prioritaires, les forces et les faiblesses de chaque parti risquent d'en être profondément chamboulés. Nous n'avons pas l'habitude, au Québec, de ne pas tenir la démocratie pour acquise. Dans un tel décor, on risque de comprendre avec plus de force tout ce qui a été dit cet automne sur les différents projets de loi mis en avant par le gouvernement caquiste, au premier chef son projet de constitution. La fragilisation de l'État de droit, le musellement du communautaire, des syndicats et de la société civile, les attaques à l'autonomie des chercheurs et des professionnels, les menaces à la liberté d'expression, le déni des droits autochtones compose un problème urgent, notamment parce qu'il rend le Québec plus facile à vendre. Je ne souhaite que 2026 soit l'année de la sortie de la torpeur, l'année où l'on défend bec et ongles tout ce qui nous permet de penser et agir collectivement sur nos propres destins avant que ça nous glisse entre les doigts. Plus on prend conscience rapidement que le risque est réel, moins ça risque d'arriver. C'était, pour 2026, sortir de la torpeur. Un texte d'Émilie Nicolas, paru dans Le Devoir.